Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel. Au chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 57. Et puis nous allons parcourir le chapitre 18 jusqu'au verset 9. C'est pourquoi, lorsque David revint au camp après avoir tué Goliath, Abner alla le chercher et l'amena devant Saül. David avait encore à la main la tête du Philistin. « Qui es-tu, mon garçon ?» lui demanda Saül. David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Jessé de Bethléem. » Pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également ses habits militaires et même son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David remportait des succès. C'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Au retour de l'armée, je suis donc au verset 6. Au retour de l'armée, après que David eut tué le Philistin Goliath, des femmes de toutes les villes d'Israélites vinrent à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et d'autres instruments de musique et poussaient des cris de joie. En chœur alterné, elles proclamaient joyeusement « Saül a battu des milliers d'ennemis. David a battu des dizaines de milliers. » Saül fut agacé, irrité, même par ce chant. Il se disait « On lui accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. » Dès ce moment, Saül regarda David avec méfiance. Ce que j'ai à partager avec vous ce matin, j'ai donné comme titre « Le cauchemar de David, une bénédiction de Dieu ». Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un de ces moments qui, dans la vie de tous les jours, devait être parmi les plus beaux de votre existence. Mais pour une raison indépendante de votre volonté, se transforme soudainement en cauchemar, en très grande déception, ou « Ah, si j'avais su !» Et c'est un peu ce qui se produit pour David. Alors que David se trouve ici à l'un des sommets les plus élevés de joie et de gloire, s'ouvre en même temps pour lui le début d'un cauchemar. Et ce cauchemar a un nom. C'est Saül. Car comme on vient de le lire, Saül était jaloux de David. Et avant de continuer ce que j'ai à partager avec vous ce matin, on va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu permets ce matin que je partage ta parole. Seigneur, écarte de mon cœur toute chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai à partager. Pour que mon cœur, Seigneur, soit libre et qu'il soit dirigé uniquement vers mes frères et mes sœurs de ta part. Seigneur, que ces paroles que tu nous as laissées, nous puissions vraiment, on le répète souvent, Seigneur, mais mis en pratique dans nos vies de chaque jour. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va d'abord remarquer que si David est la cause d'une grande joie pour tout le peuple, eh bien, il n'en est pour rien dans tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas lui qui, un matin, s'est levé et a décidé de devenir un héros. Rappelez-vous, David était seul dans la montagne d'Israël, en compagnie des troupeaux de moutons que son père lui avait confiés. David n'avait rien demandé. David était bien peinard, là, dans sa montagne avec ses moutons. Il était bien tranquille. C'était l'Éternel lui-même qui, par le prophète Samuel, était venu le chercher. Parce que Dieu a vu en lui, en David, un roi pour lui. Aussi, ce n'est pas à lui d'abord, mais à Dieu que David doit le jour de joie et de gloire qui lui est rendu par tout le peuple. Mais voilà. Voilà, il y a dans l'entourage de David quelqu'un à qui cette fête et cette gloire qui lui est rendue ne plaît pas. David, le nouveau héros d'Israël, lui fait clairement de l'ombre. Alors même que les femmes lui prêtent à lui, le roi Saül, un courage capable de tuer des milliers de soldats, elle donne en même temps des dizaines de milliers à David. Et avant de continuer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et faire un petit saut dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. Dans Matthieu 13, 17. Il est écrit, pardon, je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Alors que Jésus était avec ses disciples, il leur raconta une parabole. Ceci a rapport avec ce que on vient de lire. Hein. Donc Jésus raconta une parabole à ses disciples. C'est la parabole de l'ivraie et du blé. Le but de Jésus était de faire comprendre aux disciples que peut-être, contrairement à ce qu'ils pensaient, le royaume de Dieu, dans sa forme actuelle, c'est-à-dire sur la terre, que sur la terre, rien ne serait parfait. Deux réalités allaient coexister, cohabiter. Deux réalités allaient vivre ensemble. Et nous allons donc trouver dans ce même champ un curieux mélange. Le blé et l'ivraie. le blé ou l'herbe. Autrement dit, le bon et le mauvais. Dans la parabole, les serviteurs du maître du champ posent cette question à Jésus. Seigneur, tu n'as pas semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Et ici, je vais fermer la parenthèse. La même question peut se poser ici, en pensant à David. Comment se fait-il que ce soit au milieu même de la bénédiction de Dieu que se lève un élément de souffrance qui semble, je dis bien qui semble, par gâcher complètement cette bénédiction. D'où vient que, alors que tout semble être fait pour que notre ciel soit parfaitement clair, lumineux, les choses se passent soudainement autrement. De sombres nuages arrivent et obscurcissent notre horizon. Et c'est ce à quoi nous allons essayer de réfléchir ce matin. Bien que connaissant la parole et de nombreuses histoires qui en témoignent, il y a une idée avec laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal à nous y faire. Et cette idée, si elle n'est pas trop présente dans nos milieux, bien qu'elle y soit quand même, cette idée est particulièrement développée dans le message de ceux pour qui. De ceux pour qui être chrétien ne peut que signifier être dans la dynamique, avoir une énergie de succès et de réussite permanente. Autrement dit, non problème. Tout va aller comme sur des roulettes. Mais en réalité, la vraie idée, chers frères et chères sœurs, est justement celle de l'imperfection. Et comme nous l'avons vu dans la parabole, il y a un mélange. Il y a du bon et du mauvais. L'idée est qu'au centre même de la plus grande bénédiction, il se trouve souvent, mêlé à elle, des éléments qui peuvent nous mener à une très grande souffrance ou à des épreuves. Et j'en prends pour témoin le vécu de nombreuses personnes, dont certaines sont parmi nous ce matin. Ils pourront nous raconter ces moments difficiles qu'elles ont endurés ou vécus, ou qu'elles endurent encore maintenant. Et comme exemple, je voudrais maintenant vous partager un cas véridique. Pour les parents chrétiens, Donik, ici je vais peut-être mal prononcer, Vujicic, qui attendait un heureux événement, et l'attente d'un enfant était grande, une grande source de joie. L'un des plus beaux jours de leur vie. Et pourtant, quelle souffrance, lorsque 9 mois plus tard, ils donnèrent le jour à un enfant sans bras, sans jambes. À votre avis, à ce moment précis, quelles ont été au fond de leur cœur les pensées de ses parents? Ils devaient être certainement déçus, n'est-ce pas? Et ils devaient peut-être penser, « Est-ce là ta bénédiction, Seigneur? Mais c'est un fardeau que tu nous mets sur nos épaules et qui va durer toute notre vie. Ce n'est pas notre bonheur, Seigneur, que tu as fait en nous donnant ce cadeau, mais notre malheur. Seigneur, je ne comprends pas. Nous sommes pourtant chrétiens. Mais, il y a un mais. Trente ans plus tard, ils ne vous diront pourtant plus la même chose. Ils vous diront, ce que nous pensions être un malheur s'est changé en un bonheur plus grand. Que ce que nous aurions connu sans lui, sans cet enfant. Nick a donné sa vie entièrement à Christ à l'âge de 15 ans. Et il est aujourd'hui, surtout en Amérique, un des prédicateurs chrétiens évangéliques reconnus dans le monde. Et j'aurais voulu vous mettre une image, où on voit Nick dans une université américaine en train de partager la parole de Dieu. Et sur l'estrade où il est, il y a une table, et lui, il est posé sur la table. Et on voit que Nick a vraiment le sourire. En partageant la parole avec ses étudiants. Le bonheur de ses parents est qu'il s'est donné au Seigneur. Il est devenu enfant de Dieu. Et pour les parents, c'est la plus grande des joies qu'ils peuvent avoir. Il est devenu enfant de Dieu. Le symbole du malheur de ses parents est devenu une source de bénédiction, pas seulement pour ses parents, mais aussi pour tout le monde entier à qui Nick partage la parole de Dieu. Mais vous est-il arrivé de penser comme les parents de Nick ? Vous n'avez peut-être pas hérité d'un malheur aussi apparent que le leur, mais vous vous dites, pour d'autres raisons peut-être, pour d'autres épreuves. Cet enfant que tu nous as donné, Seigneur, je n'aurais pas cru qu'il nous donne tant de fils à retordre. Ce boulot que je t'ai demandé et que j'ai reçu de ta part, il est bien pour moi. Mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais tant de difficultés avec mes collègues. Ce quartier où j'habite, je sais que c'est toi qui m'y as conduit, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de mal avec les voisins. Tous ici présents, tous dans notre vie, il nous arrive de tels moments où nous nous posons réellement la question. Si ce qui nous est dit est vrai, juste ou une vague promesse ou d'une illusion. En Proverbe 10, verset 22, il est écrit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Et pourtant que de larmes versées. Seigneur, sur cette bénédiction que tu m'as donnée, et dont finalement, en y réfléchissant froidement, je me serais bien passé. Plus d'un psaume écrit par David en témoigne. La bénédiction de Dieu envers nous n'équivaut pas, dans la pensée de Dieu, à une vie sur cette terre sans encombre, sans embarras, sans obstacle, ou à un bonheur illimité et infini. Nous passerons tous par des épreuves. Témoin ces paroles que David écrit, par exemple, dans le psaume 13. Prenez pas la Bible, je vais le lire. Excusez-moi, il fait un peu sec. Donc, psaume 13, versets 1 à 5. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais souvenons-nous-en, chers frères et sœurs, aucune autre personne dans ce monde n'a été bénie de la part de Dieu, autant que Jésus. Quand Dieu le présente à la foule, comme ce fut aussi le cas pour David, Dieu témoigne clairement de ce qu'est Jésus pour lui. Et on peut lire ça dans Matthieu 4, 17, je vais vous le lire. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute mon affection, où en lui je trouve tout mon plaisir. Aucun autre homme, justement parce qu'il était le béni de Dieu, n'a cependant vécu, supporté, enduré tant de souffrances et tant d'oppositions. » Dans Hébreux 12, verset 3, considérez, c'est-à-dire n'oubliez pas, observez. Considérez en effet Jésus qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Si la bénédiction de Dieu ne correspond pas à un parcours sans malheur, sans souffrance, sans cauchemar, quelle est-elle? En quoi consiste-t-elle? En quoi la pensée de Dieu correspond-elle? Plus que dans les choses extérieures, c'est-à-dire notre travail, nos enfants, notre confort, que Dieu nous donne, la pensée de Dieu est dans ce que Dieu, au travers des difficultés, au travers de nos contrariétés, au travers des oppositions que nous rencontrons au cours de notre vie, produit en nous. Oui, que produit en nous les épreuves, nos difficultés? Un des versets les plus étonnants de la Bible que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 8, nous dit à propos de Jésus. Tout fils qu'il était, Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Tout fils qu'il était, Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Nous avons vraiment un bel exemple d'obéissance de Jésus. Aussi dans Marc 14, verset 36, où Jésus disait « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Fais passer cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. » Et pourtant, nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire de Jésus, voyant qui il était, d'où il venait. On aurait pu croire que Jésus n'avait besoin en rien d'être éprouvé. pour qu'il apprenne l'obéissance. Or, la Bible dit l'inverse. C'est par les souffrances que Jésus a vécu et qu'il a été amené à la perfection dans l'obéissance. Et je vais prendre ici une petite image. De tous les animaux, l'huître perlière me semble être celle qui illustre mieux le procédé à travers lequel Dieu, dans sa souveraineté, travaille pour atteindre le but qu'il s'est fixé avec nous, nous bénir. Nous savons tous que c'est l'huître, produit des perles. Ce n'est pas de façon naturelle qu'elle le fait. Les perles que produit l'huître sont en effet le résultat d'une contrariété qu'elle subit. En effet, un petit caillou ou un grain de sable s'est glissé dans sa coquille. Étant un mollusque, l'huître n'a aucune possibilité de chasser le grain de sable ou de l'extraire de son habitat. Aussi a-t-elle recours à un procédé ingénieux. Jour après jour, année après année, l'huître produit du carbonate de calcium qui petit à petit se cristallise autour du grain de sable sous la forme d'aragonite et finit par le recouvrir, ce grain de sable. Le résultat est que non seulement la douleur qu'occasionne ce grain de sable dans sa coquille est anesthésiée, c'est-à-dire que l'huître n'a plus mal, mais que de plus, ce grain de sable est transformé par une perle magnifique. Chers frères et sœurs, la souffrance, la source de souffrance qui est en nous, Dieu la transforme en une perle à la gloire de Dieu. La source de souffrance qui est en nous, Dieu la transforme en une perle à la gloire de Dieu. Telle est, dans la pensée de Dieu, la conception dans l'accomplissement de la bénédiction. La bénédiction de Dieu se trouve dans les moyens que Dieu met en œuvre pour que, à travers de ce que nous vivons chaque jour, nous soyons rendus semblables à Christ. La bénédiction de Dieu se trouve dans les moyens que Dieu met en œuvre pour qu'à travers ce que nous vivons chaque jour, nous soyons rendus semblables à Jésus-Christ. Qui d'entre nous n'a pas un jour chanté ce chant et formulé cette prière? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Ou qui n'a pas repris dans la prière les paroles de ce psaume de David? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Ou qui d'entre nous n'a pas dit à Dieu avec le chant, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. outre les difficultés, chers frères et sœurs, que Dieu permet dans nos vies, elles sont les moyens que Dieu utilise pour répondre à ce qui devrait être notre désir principal en tant que chrétien. Et c'est aussi pour accomplir le projet ultime qu'il a pour chacun de nous, nous rapprocher le plus possible de l'image de Jésus-Christ. Et je vais encore relire cette phrase. Outre les difficultés que Dieu permet dans nos vies, elles sont les moyens que Dieu utilise pour répondre à ce qui devait être notre désir principal en tant que chrétien. Et c'est aussi pour accomplir le projet ultime qu'il a pour chacun de nous, nous rapprocher le plus possible de l'image de Jésus-Christ. Outre les difficultés, le châtiment même, dit la Bible, concourt à notre bien pour que l'objectif de bénédiction que Dieu vise dans notre vie puisse être atteint. Le châtiment, les épreuves, les difficultés, il faut dire ce qui est, c'est vrai, c'est jamais agréable. Triste. Mais à cause du fruit qu'ils produisent. Dieu estime qu'il vaille la peine de l'administrer. Car comme tout bon père, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous, ses fils, ses filles, nous pensons ou désirons, mais c'est ce que lui pense et désire pour chacun d'entre nous. La bénédiction de Dieu est le travail que Dieu fait en nous dans cette vie, pour nous permettre d'entrer dans celle qu'il vient doter d'un riche capital. Si le plus tard dont parle le passage de l'Épître aux Hébreux au sujet du châtiment se rapporte à cette vie, il y en a un autre qui, aux yeux de Dieu, compte plus encore. C'est le plus tard de la gloire éternelle. C'est ça notre riche capital, la gloire éternelle. Or, à ce sujet, l'apôtre Paul est clair. Ce qui multiplie le plus le poids de gloire éternelle dont nous hériterons est celui des souffrances et des détresses que nous connaîtrons ici-bas. Ce qui multiplie le plus le poids de gloire éternelle dont nous hériterons est celui des souffrances et des détresses que nous connaîtrons ici-bas. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17, il est écrit « Car un moment de légère affliction, c'est-à-dire chagrin, peine, douleur, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un moment de légère affliction, de chagrin, de peine, de douleur devrait produire en nous un poids éternel de gloire. Dans Romains 8, verset 18, il est écrit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire à venir qui sera révélé pour nous. S'il nous arrive parfois dans la vie de tous les jours de souffrir sans comprendre, il faudra nous rappeler que les ambitions de Dieu pour chacun de nous vont bien au-delà des nôtres. Dieu sait ce qui relève du temps et qui est éphémère, ce qui relève de l'éternité et qui durera. Aussi, dans son ambition, dans son plan pour nous, Dieu vise au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et de ce que peut comprendre notre raison. Je suis persuadé que si nous pouvions l'interroger aujourd'hui, Job dirait que, au regard de ce qu'elles lui auront apporté comme capitale céleste, il ne regrette pas les souffrances momentanées qu'il a vécues sur terre. Car ces souffrances étaient passagères, et à cause d'elles, la gloire et la félicité dont Job jouit maintenant sont éternelles. Les souffrances étaient passagères, mais Job jouit maintenant d'une gloire éternelle, car il a fait confiance et a obéi à Dieu. Oui, en apparence, le jour qui devait être l'un des plus beaux jours de notre vie, ou de celui de David, semble avoir été gâché, assombri par la haine et la jalousie qui sont nées en ce moment-là dans le cœur de Saül. 80% des problèmes humains, affirme un psychiatre chrétien, plongent leurs racines dans l'amertume et l'envie qui sont réfugiées dans nos cœurs. Et c'était le cas de Saül. David, dans cette circonstance, n'est pas livré à lui-même. Dieu, et la suite de l'histoire le montre, contrôle parfaitement la situation. Saül, le cauchemar de David, est le moyen par lequel Dieu va prouver que David était bien le roi qu'il avait vu pour Israël. Saül est comme une école dans laquelle Dieu place David pour révéler en lui la perle qu'il a vue en David. Il y a dans la Bible deux versets qui portent la même expression. Le fait que cette expression se trouve dans ces versets n'est pas un hasard, car l'un des versets ne peut être vécu si on n'a pas appris à vivre l'autre. Le premier verset est celui-ci, dans Romains 8, 28. « Toutes choses, dit la Bible, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il nous donne de nous en souvenir à chaque moment, facile ou difficile de notre vie. » Oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il nous donne de nous en souvenir à chaque moment, dans les moments faciles ou difficiles de notre vie. C'est vrai qu'on se souvient plus quand on est dans les difficultés. Le second verset est dans 1 Thessaloniciens 5, 18. En toutes choses, c'est-à-dire en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, rendez grâce à Dieu, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voulons-nous être bénis, chers frères et chères sœurs, selon Dieu ou selon nous. Sachons que ce Dieu qui sait comment nous bénir et quels moyens il doit utiliser pour le faire. Amen.